Je vous invite maintenant à tourner votre Bible et à revoir le verset qui était à la base du message depuis dimanche dernier, c'est Tite, hein? Tite chapitre 1, verset 4. Tite chapitre 1, verset 4. À Tite, mon enfant légitime, en notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. La dernière fois, nous nous sommes quittés, donc en parlant et en partageant la bénédiction de la grâce dont Paul désire pour Tite, mais aussi pour tous les croyants. Et aujourd'hui, nous allons parler de la bénédiction de la paix. Que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais juste parler de la paix d'abord d'une manière générale. Nous le savons que l'homme a besoin de rechercher constamment la paix. Vous savez, après la Deuxième Guerre mondiale, a été créée l'ONU. Et pourquoi? Tout simplement pour maintenir la paix et la sécurité internationale. Mais descendant un peu plus dans le niveau d'un pays, quand vous voyez dans un pays comme la France le budget colossal qui est consacré pour la défense et les armements, tout simplement, pourquoi? Parce que pour assurer la sécurité de ses citoyens qui ont besoin de la paix. Vous descendez maintenant à l'échelle de la société. Il n'y a pas longtemps, sans faire de la politique, hein, il était créé ce qu'on appelle la police de sécurité quotidienne. Pourquoi? Pour lutter efficacement contre la délinquance et aussi pour assurer la tranquillité des habitants dans les quartiers. Et je descends encore au niveau de l'individu. Où la paix intérieure, où les Français sont considérés dans le monde, hein, ce pays qui consomme le plus d'antidépresseurs. Pourquoi? Parce que l'homme a besoin sans cesse d'avoir cette paix intérieure. Mais comme il ne l'a pas, il se verse dans des choses, comme dit notre frère, des citernes crevassées, pour apaiser ou pour satisfaire cette paix intérieure. Pourquoi tout cela? C'est pour dire tout simplement, et j'espère que vous êtes convaincus de cela, que l'homme sans cesse cherche la paix. Le constat est là, il n'arrive pas à l'obtenir, du moins durablement. Mais avant d'aller plus loin, mais qu'est-ce que veut dire la paix? Ce mot, dans le mot hébreu traduit par paix, c'est shalom. Et fondamentalement, ce mot décrit le bien-être total de la vie d'une personne, y compris sa santé, sa prospérité. Et donc, le bien-être d'une personne est intimement lié à sa paix. Je veux dire par là sa paix intérieure. Et vous savez, les Juifs même ont adopté, hein, comme une formule de salutation shalom quand ils se rencontrent. Et ça a tout un sens quand on considère l'État d'Israël aujourd'hui, hein, avec ses voisins autour de lui, où la paix est très fragile et demeure très très fragile. Donc ce mot a tout son sens, même dans notre actualité aujourd'hui. Mais dans le Nouveau Testament, le mot paix signifie littéralement joindre. Vous dites, mais quel est le lien entre la paix, le mot paix et joindre? Joindre, ce qui signifie joindre ensemble ce qui a été brisé. Joindre ensemble ce qui a été brisé. Donc ce qui nous amène à nous poser ce matin, et ce qui nous donne le plan de la prédication ce matin, à poser la question, mais qu'est-ce qui a été brisé dans le besoin fondamental de l'homme par rapport à sa relation dans trois domaines? À savoir, qu'est-ce qui a été brisé dans la relation entre l'homme avec son Créateur? Ce qui nous amène à parler en premier lieu de la paix avec Dieu. Qu'est-ce qui a été brisé dans la relation de l'homme avec lui-même? Ce qui nous amène, en deuxième lieu, à considérer la paix de Dieu. Et qu'est-ce qui a été brisé dans la relation de l'homme avec ses semblables? Ce qui nous amène à parler de la paix avec les autres. Donc ça, c'est les trois points que nous allons voir maintenant. D'abord, la paix avec Dieu. Je dirais, c'est la paix qualifiée d'objective. Je m'explique après. Mais nous nous posons la question, mais qu'est-ce qui a été brisé? Donc la paix avec Dieu rétablit le lien qui a été rompu entre l'homme et Dieu. Pourquoi? Parce que une barrière, le péché, sépare l'homme de son Créateur. Vous pouvez regarder, je vous cite Ésaïe 59, verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation, j'ai parlé de barrière, une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Cela nous amène à nous poser la question, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que signifie le péché? C'est un sujet où la Bible nous donne beaucoup d'enseignements. Mais pour résumer la définition du péché, la Bible utilise trois termes. D'abord, le péché désigne ou signifie plutôt manquer la cible. Retenez bien ça, le péché au sens biblique du terme veut dire manquer la cible. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que manquer la cible souligne l'incapacité de l'homme d'atteindre le but pour lequel il a été créé. Une fléchette, vous l'envoyez au centre, vous avez 500 points, et vous voulez tellement viser 500 points, mais vous êtes à côté. Manquez la cible. Et donc, ça souligne l'incapacité pour l'homme d'atteindre le but pour lequel il a été créé. Il a été créé pour quoi? Pour la gloire de Dieu, pour glorifier Dieu. Et il est dans l'incapacité d'atteindre ce but de par lui-même. Deuxièmement, pour définir le péché, c'est la transgression ou la rébellion. Cela indique tout simplement ou traduit le refus de l'homme de vivre et de se soumettre aux normes de Dieu qui est révélée dans sa parole. Ce qui veut dire que l'homme délibérément a choisi de s'engager dans une voie contraire à celle que Dieu veut pour lui. Un troisième mot pour définir le péché c'est l'iniquité. Mais qu'est-ce que ça veut dire? L'iniquité, ça parle de la perversion, ça parle de la distorsion. Peut-être pour saisir un peu le sens, je vais illustrer ainsi. Pervertir, c'est détourner l'usage de quelque chose autre que le but pourquoi il a été conçu ou créé. Je prends un exemple. Aujourd'hui, la chaise sur laquelle vous êtes assis a été conçue pour quoi? Pour qu'on puisse s'asseoir dessus, n'est-ce pas? Pervertir le but pour lequel la chaise a été créée, c'est qu'aujourd'hui, les designers pour l'art contemporain puissent détourner et faire d'une chaise un objet d'art. Vous voyez, ça c'est l'idée. Et l'homme en lui-même a de la fausseté. L'homme en lui-même est foncièrement mauvais. Et ça souligne ce qu'on appelle la dépravation de l'homme. Donc à retenir, pour bien retenir dans la Bible trois mots pour qualifier le péché. Dans sa forme, donc le péché c'est l'inaptitude à atteindre la cible, le but pour lequel l'homme a été créé. Retenez bien ça, inaptitude à atteindre le but pour lequel il a été créé. Dans sa substance, le péché, c'est une attitude de révolte ou de résistance à Dieu. Et dans son résultat, le péché est un état de perversion totale. Il faut bien retenir que tout péché se dirige contre Dieu. Rappelez-vous de David, quand il a commis l'adultère avec Bathsheba, quand il était confronté avec son péché, Nathan, qui est venu vers lui, et il a dit, j'ai péché contre toi seul. Pourtant, il a commis l'acte d'adultère avec Bathsheba. Mais il a compris que le péché, c'est une porte atteinte à la personne de Dieu. J'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Donc, le péché, c'est un affront contre un Dieu saint. Et nous savons très bien que la sainteté de Dieu et le péché de l'homme ne pourront jamais s'unir, se mettre côte à côte, impossible. Par conséquent, la sainteté de Dieu exige que le pécheur ne puisse pas vivre en sa présence. Comme nous avons dit tout à l'heure, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ainsi, toute relation, toute communion entre le Dieu créateur et la créature déchue sont impossibles. Donc, il y a une rupture totale des relations entre l'homme et Dieu à cause de son péché. Mais, regardons maintenant, quel est le moyen que Dieu a révélé dans sa parole pour établir le lien qui est rompu entre l'homme et lui à cause de son péché. J'aimerais que vous tourniez votre Bible dans Colossiens, s'il vous plaît. Colossiens, chapitre 1, versets 20 à 21. Quel est le moyen que Dieu a utilisé ou Dieu a révélé dans sa parole pour rétablir le lien qui a été rompu entre l'homme et Dieu à cause de son péché? Colossiens 1, versets 20 et 21. Il, vous regardez juste au verset 19, hein, le « il », le sujet, c'est Dieu. Donc, « il », en parlant de Dieu, a voulu par lui, lui c'est qui, le Fils, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui. Comment? Par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, hein, il vous a maintenant réconcilier. Observons rapidement ce verset. D'abord, premièrement, nous remarquons que le moyen pour établir le lien qui est rompu, c'est quoi? La réconciliation. La réconciliation. Il vous a maintenant réconcilié. Mais qu'est-ce que veut dire étymologiquement la réconciliation? C'est simple, c'est passer de l'hostilité à la paix. Retenez ça. La réconciliation, c'est passer de l'hostilité à la paix. Donc, lorsque nous parlons de réconciliation de deux personnes, revenons à l'échelle de l'homme, cela sous-entend que les deux personnes ne sont plus en bon terme. Et l'inimité entre elles cause une séparation. Mais ce qui se passe, c'est ce qui se passe entre l'homme et Dieu, comme nous venons de dire précédemment, à cause de son péché. Donc la réconciliation, c'est le changement de l'inimitié à l'amitié, du désaccord à l'harmonie et de l'hostilité à la paix. Ce matin, peut-être vous dites, oh, je fais mon possible pour servir Dieu. Je pratique ma religion d'une manière assidue. Je suis présent à toutes les réunions. Je fais des bonnes œuvres. Mais là, je ne comprends pas toujours. Mais pourquoi dois-je être réconcilié avec Dieu? Et ce qui nous amène dans ce passage de Colossiens
chapitre 1, verset 20 à 22, à considérer le deuxième point. La réponse, c'est le péché qui a fait de l'homme ennemi de Dieu. Il est écrit ainsi. Ce qui explique la nécessité d'être réconcilié avec lui. Donc, ce n'est pas par vos bonnes œuvres que vous méritez la faveur de Dieu pour qu'il ait pitié vers vous. Non! Vous êtes ennemi de Dieu et nécessite ainsi que vous soyez réconcilié avec lui. Vous savez, lorsque deux humains ne sont pas en bonne relation, souvent la faute est partagée. Et aussi l'hostilité, je dirais, est mutuelle. Mais quelque chose de remarquable, en ce qui concerne la relation de l'homme avec Dieu, seul l'homme est à blâmer, celui qui a péché contre Dieu. La Bible est claire. Dieu est absolument sans reproche. Et c'est pour cela, quand vous lisez votre Bible, vous ne voyez jamais écrit que Dieu doit être réconcilié avec l'homme. Jamais. C'est l'homme qui doit être réconcilié avec Dieu. Et le troisième point qui est à remarquer dans ce verset, il y a quelque chose de magnifique et extraordinaire. Dieu qui a fait le premier pas et qui a pris l'initiative de la réconciliation, pourtant c'est l'homme qui a péché. Regardez le verset 19. Il, en parlant de Dieu, a voulu par lui réconcilier. Il, Dieu lui-même qui a pris l'initiative pour que l'homme soit réconcilié avec lui. Or, si cela dépend de l'homme, celui-ci ne serait jamais venu se réconcilier avec son Créateur. Pourquoi? Parce que nul ne cherche Dieu, Paul le dit. Et supposons que c'est possible. L'homme ne pourrait jamais, par ses efforts les plus sincères et même les meilleurs de ses œuvres, réparer le dommage, le tort qu'il a fait à Dieu par son péché. Quatrième point à souligner dans ce verset. Non seulement Dieu lui-même qui a pris l'initiative de la réconciliation, mais plus que cela, Dieu a fourni le moyen de la réconciliation en la personne de son Fils. Par lui, il a voulu réconcilier. Par lui, n'est-ce pas? C'est par Christ que Dieu fait la réconciliation. Pourquoi? Parce qu'étant sans péché, et en toute chose égale à Dieu, lui seul qui ressent ce que Dieu ressent à l'égard du péché et qui connaît les exigences de sa sainteté et de sa justice. Et de l'autre côté, lui seul qui peut donner la satisfaction nécessaire à Dieu, ce que l'homme n'a pas. Mais, parlant de la réconciliation, il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier, et nous l'avons mentionné tout à l'heure, que le péché a gravement offensé Dieu. Ça porte atteinte à la personne de Dieu. Par conséquent, l'hostilité du cœur de l'homme envers Dieu signifie que par son péché, l'homme est condamné. Il a provoqué la juste colère de Dieu. Vous pouvez voir Éphésiens 2:3. Ainsi, pour que l'homme ait la paix avec Dieu, il faut absolument donc que la question de ses péchés soit réglée. Dieu qui a été outragé par le péché de l'homme doit d'abord être justement et pleinement satisfait. Et pour ce faire, le péché doit être expié. Le moyen de la réconciliation, c'est le sang de Christ. Il est indiqué dans ce verset, il veut, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Ici, nous voyons le prix de la réconciliation. Et quelque chose quand même qu'il ne faut pas passer à côté, dans ce verset, il fait attention d'abord et souligne son humanité par son sang. Que sa mort en tant que substitut pour être le sacrifice pour expier le péché est indiqué et souligné par sa croix, n'est-ce pas? En titre de parenthèse, pourquoi? Parce que l'épître aux Colossiens était adressé dans une église où l'erreur qu'on appelle le gnosticisme était ancrée et enseignée par les faux docteurs. Et il nie complètement la mort de Christ. Il nie sa divinité. Et ici, le fait d'insister sur ce fait, son humanité et sa mort, c'est pour contrecarrer les idées gnostiques. C'est une parenthèse. Et donc, le Dieu saint et juste a été satisfait par ce sacrifice et sa colère contre le péché de l'homme a été déversée sur Christ et il est apaisé. Et vous savez, c'est seulement sur cette base, uniquement sur cette base, que l'homme peut être réconcilié avec Dieu et Dieu peut réconcilier l'homme pécheur avec lui. Est-ce que vous voulez ce matin faire la paix avec Dieu? Faire la paix avec Dieu? Dieu a pourvu à la provision, la solution pour faire la paix avec lui. En la personne de Christ qui a donné sa vie pour être le substitut pour nous subir la colère du péché que nous méritons à notre place. Ce matin, assis à votre place, vous pouvez vous réconcilier à Dieu et faire la paix avec lui en venant à Christ. C'est uniquement ceux qui reçoivent la paix avec Dieu qui maintenant peut vivre et expérimenter dans son quotidien ce qu'on appelle la paix de Dieu. C'est ce que nous allons voir maintenant. Juste pour faire la distinction, pour que ça marque notre esprit, la paix avec Dieu, j'avais dit au départ, objective, hein, parce qu'elle est basée, non pas sur moi, sur quelque chose d'extérieur à moi, sur l'œuvre de Christ accomplie sur la croix. Et maintenant, cette paix avec Dieu, pour ce qu'il en fait, va maintenant amener la paix de Dieu, que je dirais maintenant, subjective. Nous allons voir pourquoi. Et parlant de cette paix subjective, nous allons d'abord regarder bibliquement ce qu'elle est. Qu'est-ce que la Bible entend par paix de Dieu? Et aussi ce qu'elle n'est pas. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, des fausses compréhensions de cette paix de Dieu et qui induit en erreur et à une conduite loin de la parole de Dieu. D'abord, qu'est-ce qu'elle est cette paix de Dieu? Donc, nous avons défini shalom au début, quand je vous ai donné la définition. Donc, ce qu'elle est, c'est que la paix aussi décrit l'état d'une personne que rien ne vient troubler. Je répète, la paix décrit aussi l'état d'une personne que rien ne vient le troubler. Ça veut dire le calme, la sérénité. Et vous savez, la Bible décrit de telles personnes, hein, en Ésaïe 26, verset 3. Vous pouvez regarder Ésaïe 26, verset 3, où il nous est écrit « À celui qui est ferme dans ses sentiments », les meilleures traductions, ce n'est pas sentiment, plutôt volonté. Hein, vous pouvez donc comprendre ceci. « À celui qui est ferme dans sa volonté, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. » Je veux relire Ésaïe 26, 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, plutôt volonté, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Quel est le contexte de ce verset? Ce verset, et je dirais, quand vous lisez le livre d'Ésaïe, du 25 jusqu'au 27, chapitre 25, 26, 27, c'est un paquet, si vous voulez, de cantiques, et qui ont vu un âge qui n'est pas le nôtre, mais le millénium. Ça fait référence au règne à venir du Messie sur terre pendant 1000 ans. Et ici, par anticipation, Ésaïe chante ce cantique, n'est-ce pas? Et donc, le contexte, c'est ainsi, et nous remarquons, par anticipation, donc, il voit, hein, l'application, on dirait, plus loin, à venir, hein, le Messie fait, d'une part, de la nouvelle Jérusalem, le rempart de la sécurité. Vous pouvez le lire, Isaïe 26, hein, verset 1 jusqu'à 6. Ce qui est lu dans ce cantique, c'est que d'une part, le Messie à venir pour régner 1000 ans sur terre fera de nouvelle Jérusalem le rempart de la sécurité. Et aussi, il va maintenir dans la paix l'esprit de tout ce qui se trouve à l'intérieur de la ville, cette nouvelle Jérusalem, et aussi de tout ce qui se confie au Dieu vivant. Vous voyez ? Ça, c'est le contexte. Ça, c'est ce qui est visé dans ce verset. Pourquoi ? Parce qu'il ne parle pas de présent au temps d'Ésaïe. Si vous lisez verset 1, il est dit « en ce jour ». Donc, ça visera quelque chose qui va venir plus loin. Donc, ici, c'est le règne messianique de 1000 ans sur terre. Mais, ce qui est important, il fera de Jérusalem, ce Messie, un rempart de la sécurité. Et il fera en sorte que l'esprit de tout ce qui se trouve à l'intérieur de la ville sera en paix. Et aussi, tout ce qui se confie surtout au Dieu vivant. Mais ce matin, vous dites là, c'est bien, c'est clair peut-être ce verset pour moi, mais quelque chose que je ne comprends pas. Mais ça, c'est là pour 1000 ans à venir. Ouh, c'est encore loin. Mais moi, j'ai besoin pour moi aujourd'hui. Je me suis posé cette question. Oui, ça c'est pour moi. Et encore plus, c'est pour les Juifs qui vont sortir de la grande tribulation pour venir régner avec Christ. Évidemment, l'Église va régner en descendant du ciel aussi avec Christ. Mais ça vise premièrement les Juifs. Donc c'est pas pour moi, c'est pour les Juifs. C'est pas pour maintenant, mais c'est pour l'avenir. Oh là là, ça m'intéresse pas trop ça. Moi je veux pour maintenant. Vous savez, en regardant la parole de Dieu, oui, il est exactement, Dieu a prévu la même chose pour nous aujourd'hui. Je vais en parler juste tout à l'heure. N'oublions pas que notre préoccupation toujours, si vous me suivez, c'est de voir, selon la Bible, qu'est-ce qui caractérise cette paix de Dieu, ce qu'elle est. Ça, c'est notre question. Et on va voir 4 points. Qu'est-ce qu'elle est, cette paix de Dieu? Qu'est-ce qui la caractérise? D'abord, la paix de Dieu n'est pas due à l'absence des épreuves, ou absence de danger, ou des difficultés. Oui, cette paix n'est pas due à l'absence de conflits ou des épreuves ou des difficultés, mais c'est une œuvre surnaturelle que Dieu fait pour maintenir dans la paix l'esprit de tous ceux qui se confient en lui. Vous voyez, c'est une paix qui n'est pas liée à une absence de conflit pour me garder en sérénité, c'est une œuvre surnaturelle que Dieu fait pour maintenir mon esprit dans la paix parce que je me confie en lui. Le principe de ce verset est applicable pour nous aujourd'hui aussi. Nous avons dit tout à l'heure, mais là c'est pour les Juifs, c'est pour le millénium, mais qu'est-ce qui est pour nous aujourd'hui? Je vous invite à regarder avec moi Philippiens chapitre 4, verset 5 à 7. Oui, Dieu a prévu la même chose pour nous aujourd'hui. Philippiens chapitre 4, verset 5 à 7. Et je prends le verset dans son contexte. Vous savez, tellement je suis habitué, j'arrive même, et la plus grand nombre ici récite par cœur ce verset. Mais quand je commence à préparer ce message depuis vendredi, en tournant mes pensées, j'ai fait attention pour la première fois dans ma lecture de Philippiens, le contexte dans lequel la suite de versets 6 et 7 va être décrit. Regardez Philippiens chapitre 4 verset 5. J'arrive à la fin. Le Seigneur est proche. Vous voyez, le Seigneur est proche. Je fais une petite commentaire. Mais est proche, ça veut dire quoi? Ça peut être maintenant? Ça peut être dans 10 minutes? Proche. Eh oui. Et ça peut être dans 2 heures? Ça peut être dans 20 jours? Ça peut être dans une semaine? Ça peut être dans 10 ans? Ça peut être dans 100 ans? Le Seigneur est proche. Alors, dans ce contexte, qu'est-ce qu'il est dit pour nous aujourd'hui? Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, Et voilà. Et la paix de Dieu, c'est le sujet de notre préoccupation, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ce qui se souvient, c'est exactement aussi l'enseignement de Jésus à ses disciples avant de quitter cette terre, n'est-ce pas? Matthieu 6, verset 25 à 34. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien. Donc, notre sujet, c'est la paix de Dieu. Et qu'est-ce que dit ce verset pour nous aujourd'hui? Cette paix se tiendra, le mot ici, gardera, en grec, vérifiez-le. Ce mot gardera signifie, cette paix se tiendra en garnison autour de nos cœurs et nos pensées et empêchera que l'inquiétude et tous les autres intrus de pénétrer en nous. Waouh! Je répète. Cette paix, il va se tenir en garnison autour de nos cœurs, nos pensées, et empêchera l'inquiétude de tous les autres intrus de pénétrer en nous. Cette paix nous gardera en Jésus-Christ. Quand vous voyez l'image de la garnison, revenez maintenant, faites le parallèle avec le millénium d'Ésaïe 26 que nous venons de lire. Ésaïe parlera d'une ville forte, il parlera des murailles, et regardez ici, pour symboliser l'image de la sécurité totale, Paul utilise de manière similaire l'image d'une garnison, où tout est protégé, impossible d'y rentrer, que l'inquiétude fasse sa place. Vous êtes convaincus? On n'a pas besoin d'attendre le millénium, on l'a. Mais entre ce que je sais et ce que ressent mon cœur, souvent il y a une distance des millions de kilomètres. Des millions de kilomètres. Je parle en connaissance de cause. Et combien, Seigneur, je confesse, je n'ai pas besoin d'être misérable. Ça sent tout ce qui est à ma disposition. Qu'est-ce qui caractérise cette paix de Dieu? Cette paix, je qualifie de subjective. Pourquoi? Parce qu'elle dépend de la confiance en Dieu. Comme je viens de dire, ce que je connais, excusez-moi le mot intellectuellement, on a besoin de connaissances. Ce que je connais de la vérité dans la parole de Dieu, concernant le sujet, ici, de la paix de Dieu, c'est indispensable de le savoir. Mais l'écart entre cette connaissance et la réponse de notre cœur, peut-être, comme je vous ai dit, étonnamment grand. Car même si ces vérités sont ancrées dans notre esprit, notre cœur peut être encore submergé par l'amertume. Quand le mauvais jour nous arrive, peut être rempli, submergé de la colère, le sentiment d'abandon, voire même de l'absence de Dieu. Et dans ce cas, or ça ne doit pas l'être. Cette paix ne se tiendra plus en garnison comme elle doit l'être autour de votre cœur et de vos pensées. Et en ce moment-là, vous êtes en danger. Pourquoi? Parce que vos pensées n'êtes plus dans la sphère de la protection de cette garnison qui est le Seigneur, Jésus-Christ. C'est pour cela, chacun de nous n'est pas au même stade concernant cette distance entre ce qui est là et ce qui est là. C'est pour ça qu'elle est subjective. Vous me comprenez? La confiance, je dis subjective car elle dépend de notre confiance en le Dieu de la parole, mais aussi dans la mise en pratique de la parole de Dieu. Troisième point, quelle est les caractéristiques de cette paix de Dieu? J'arrivais pas à trouver une formule, j'ai plein de choses, mais ça ne me satisfait pas. Mais je veux dire, la paix de Dieu, c'est ce qui est visible, hein, ce que vous allez voir quand quelqu'un est mis dans une situation, des circonstances difficiles. La paix de Dieu va démontrer la paix avec Dieu qui n'est pas visible. Est-ce que je suis compris? La paix de Dieu va démontrer cette réalité que j'ai fait la paix avec Dieu. Cette paix qui est vécue dans le quotidien, qui fait que vos amis, vos connaissances, qui ne sont pas sauvés, s'interrogent. Il se dit, mais qu'est-ce qu'il a? Comment il est serein? Pourtant, ce qui lui arrive. Mais qu'est-ce qui fait cela? Vous voyez, le vécu de la paix de Dieu amènera une interrogation à vos amis pour que c'est une opportunité pour leur apporter l'évangile qui déclare qu'ils ont besoin d'avoir la paix avec Dieu s'ils veulent aussi expérimenter cette paix de Dieu. Donc, la paix de Dieu qui est manifestée si nous sommes obéissants à la parole de Dieu va démontrer cette paix avec Dieu. Et dans ce sens-là, il va nous donner une opportunité pour porter l'évangile, pour que lui aussi, il va faire la paix avec le Dieu, son Créateur. Quatrième point, qu'est-ce qu'il fait et qui caractérise cette paix de Dieu? Je lis dans la Bible que cette paix est réservée uniquement aux enfants de Dieu. Uniquement aux enfants de Dieu. Tout à l'heure, notre pasteur, dans sa prière, a parlé de la bonté de Dieu qui donne la pluie, n'est-ce pas? Il fait lever le soleil sur les bons et méchants. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Jésus dit ça en Matthieu 5, 45. Mais écoutez bien, c'est ce qu'il fait pour toutes ces créatures, mais, uniquement la paix de Dieu est réservée pour ceux qui le connaissent, ceux qui sont sauvés. Pourquoi? La parole est claire, Isaïe 48, 22, il n'y a pas de paix pour les méchants, dit l'Éternel. Vous avez dit, mais qu'est-ce que ça veut dire méchant? Pour simplifier, dans le concept biblique, le méchant, c'est toute personne qui pour lui, Dieu n'est pas dans son équation. Dieu est exclu à côté pour son projet, pour sa vie. Il décide tout sans Dieu. Et moins de choses de considérer l'intérêt de Dieu. Ça, c'est le méchant. Et pour lui, il n'y a point de paix, dit mon Dieu. Isaïe 57, 21. Oh, vous comprenez maintenant? Combien c'est riche, et je comprends mieux quand on regarde ces enseignements de la Bible, quand Paul prie que la grâce de Dieu, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Je comprends mieux. Oh, combien chaque jour, comme j'avais dit la semaine dernière, la grâce. Mais il en est de même maintenant, je le dis aussi, la paix, c'est l'atmosphère où le croyant a besoin de respirer et vivre, sans lequel il est en échec. C'est comme un enfant, et comme toute personne, pour vivre a besoin de l'oxygène. Et l'enfant de Dieu, pour vivre dans sa vie spirituelle, a besoin, comme un oxygène, de la paix de Dieu. Ça, c'est ce qu'elle est, cette paix. On peut en parler autre chose, mais regardons maintenant ce qu'elle n'est pas. Ce qu'elle n'est pas. Vous savez, pourquoi je parle de cela? Parce que, il y a quelque temps, quelqu'un est venu me voir et poser cette question en voyant quelqu'un qui se disait croyant et qui pourtant vit dans le péché, et cette personne affirme sans peur de dire qu'il est vit en paix intérieure. Tout va bien pour lui. C'est troublant. Quelqu'un qui se dit croyant et qui désobéit flagramment à la parole de Dieu dans sa vie et qui se dit « Je suis en paix, tout va bien pour moi. » ça mérite d'être posé la question, mais de quelle paix parle-t-il? Ça mérite de poser cette question. Le schéma que je veux vous indiquer maintenant, et j'attire votre attention, restez encore quelques minutes avec moi, est vrai, n'importe quel péché que vous considérez. Vous pouvez parler du mensonge. Ce principe que je vais énoncer maintenant, c'est valable pour tout péché, mensonge, colère, débauche, l'impureté, l'orgueil, l'avarice, la haine, et le péché de commission. Je ne devrais pas le faire, et j'ai fait. Et le péché d'omission, sachant bien que je devrais le faire, je ne l'ai pas fait. Vous voyez, tout cela rentre dans ce cadre pour comprendre, mais de quel pays il parle? Vous savez, il y a le verset dans Hébreux qui disait « Ne vous endurcissez pas par la séduction du péché ». Vous savez, le péché, par la tentation, est séduisante. La tentation en elle-même n'est pas un péché, mais le fait de céder à la sollicitation de cette tentation, c'est là le péché. Et sachez-le, chaque jour, vous êtes exposé. Et qu'est-ce qui se passe? Suivons le principe, le schéma maintenant. Par tous ces péchés que je viens d'énumérer, votre conscience, le Saint-Esprit dit, tu as péché. Regarde ce que tu fais. Tu le sais. C'est mal. Et qu'est-ce qui se passe? Première réaction. On nie. Bon, non, c'est pas vrai. On rejette. Non, c'est pas moi, c'est la faute des autres. Et pire, en le niant, en le rejetant, on refoule. Quelque part, en nous, entre guillemets, le subconscient, se fait. Et à chaque sollicitation du péché, la tentation, vous cédez et vous reproduisez le même schéma. Nier, rejeter sur les autres, refouler. Plus on réagit comme cela, qu'est-ce que la Bible parle? On s'endurcit. On s'endurcit. Et le plus grave, c'est quoi? C'est que notre conscience est étouffée. Cette petite voix en nous qui fait pas fait mal. Et nous voulons l'étouffer. Nous voulons pas l'entendre. Sa voix est étouffée. Et le Saint-Esprit dit la parole de Dieu en nous est attristé. Et donc, ils ne peuvent plus nous reprendre. Et qu'est-ce qui se passe? Deuxième étape, on passe à une deuxième phase. Plus on s'endurcit, qu'est-ce qui se passe? Plus on est devenu, plus on se désensibilise. Plus on s'endurcit, plus on se désensibilise par rapport au péché. Et le comble, c'est que quand la voix du Saint-Esprit, par le biais de la conscience, est bafouée, et étouffé, plus rien pour nous reprendre. Et c'est à ce moment-là que l'on se dit, je suis en paix malgré que je vis dans le péché. Pourquoi? Parce que c'est pas la paix, c'est une désensibilisation vis-à-vis du péché. Et je comprends maintenant la problématique que je viens de vous poser, je comprends maintenant. Et même ça peut nous arriver en tant que croyant, d'être convaincu qu'on n'est pas dans le péché, pourtant, la parole est claire qu'on le fait. Et vous savez, l'autre côté de l'iceberg, l'autre face cachée dans ces étapes que je viens de vous dire, c'est que plus vous vous endurcissez, ça amène en vous à une fabrique, si je peux dire, des faux raisonnements. Et plus on veut justifier le péché, plus on devient subtil dans la manière de nous justifier à nous-mêmes quand la conscience nous accuse. Et ça, C'est la réalité de mon cœur, des vôtres. C'est comme cela. Donc on fabrique un mécanisme de faux raisonnement pour nous justifier face à cette conscience, tant qu'il peut encore accuser. Et vous savez, ce faux raisonnement, c'est ce que la Bible appelle, Paul dit, les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Ces raisonnements deviennent comme une forteresse et difficile à démolir. Et non seulement ça constitue au niveau de nos pensées ces forteresses, mais inconsciemment, nous ne nous sommes pas rendus compte, mais nous sommes en train d'élaborer un mécanisme, je dirais, de réaction spontanée dans notre attitude et que nous ne sommes pas, parfois nous ne le voyons pas. Donc non seulement faux raisonnement, mais faux raisonnement va induire des attitudes contraires à la parole de Dieu. Et vous savez, j'ai lu quelque part et dans des ouvrages que plus l'homme est rentré dans ce jeu de se justifier, auto-justifier, ça peut devenir, c'est pas pour vous faire peur, mais c'est la réalité, maladive, et entraîne des troubles psychiatriques. Je ne veux pas rentrer dans le détail. Mais l'homme, à force de vouloir se justifier, qu'est-ce qui se passe? Il va s'infliger à lui-même des maux, parce que l'homme a besoin perpétuellement de payer pour ses fautes, pour se justifier. Et je ne veux pas rentrer dans le détail, mais vous voyez, c'est pas la paix de Dieu, c'est une désensibilisation face à son péché. Donc je comprends mieux, j'espère que vous suivez ce que je suis en train de dire là-dessus. C'est important, chers frères et sœurs, parce que vous n'êtes pas à l'abri de telles choses, aujourd'hui même. Peut-être dans votre vie ce matin, personne ne voit, mais dans votre conscience, en entendant ça, vous savez, oui, c'est moi cette personne. Et depuis des années, c'est comme ça. Et moi, je suis enchaîné. Et je ne peux plus. Et pourtant, vous montrez apparemment une apparence de paix. Mais c'est jamais la paix de Dieu. Ce n'est pas la paix de Dieu. Et vous savez comment je peux reconnaître que c'est la paix de Dieu? C'est simple, la parole de Dieu. Quand il dit, tu as péché, tu confesses. Confesse, ça veut dire quoi? Accepter le diagnostic de Dieu. Illustration encore. Confesser, accepter le diagnostic de Dieu. J'étais allé au garagiste pour réparer ma voiture, il fait le diagnostic, il m'établit une facture, voilà, ça à faire. Pour un ABS, pour les systèmes de freinage. Et pourtant, quelqu'un que je connais me dit, mais c'est pas ça du tout. Il fait notre diagnostic, il dit, non, c'est juste des connecteurs, des fils au-dessous du siège, c'est juste là qu'il y a un mauvais contact. Ah, qui croire? Et c'est là le sens de confesser. Confesser, c'est avoir et accepter, avoir le même diagnostic que Dieu a sur le péché. Dire la même chose que lui. Ça, c'est la démarche d'un chrétien. Par obéissance, il va venir et confesser à Dieu ses péchés. En confessant, il va montrer qu'il veut l'abandonner. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu va pardonner. 1 Jean 1:9, et nous purifie de toute iniquité. Et aussitôt, il va à nouveau entrer dans la jouissance de la communion, de l'intimité avec Dieu. Et la paix par l'Esprit de Dieu en lui est assurée. Et là, c'est clair, bibliquement, c'est bien la paix de Dieu, parce que c'est passant par la repentance, la confession des péchés, l'abandon des péchés. Et Dieu promet qu'il va nous faire rétablir la communion et la paix de Dieu par son esprit est en nous. Donc la paix de Dieu est sans doute très importante dans nos vies, chers frères et sœurs, mais l'on ne doit pas chercher à n'importe quel prix. comme l'expression qui dit toujours, la fin ne justifie pas les moyens. Donc il faut qu'elle puisse se vérifier par les Écritures. C'est le seul moyen de démontrer avec exactitude que c'est vraiment la paix de Dieu qui est en nous et non pas cette semblant auto-justification en étant désensibilisé complètement à force d'endurcissement. Je veux terminer et dire, oui, Lala, d'accord, mais moi, dans mon quotidien, je me pose la question, mais comment vivre et montrer cette paix au quotidien? Parce que pour moi, il suffit de peu de choses et mon ciel s'assombrit. Et ma paix s'évanouit. Il suffit de peu de choses. Des factures, encore. Imprévues. Des soucis au travail avec un ou des collègues. Un souci avec les enfants qui deviennent de plus en plus rebelles. Souci avec ma santé et que sais-je. Et à cause de tout ça, je finis par être troublé. Je finis par ne plus dormir, j'ai des insomnies. Je suis angoissé, je suis dans la confusion. Pourtant, là, c'est clair, la parole de Dieu, oui, cette paix est caractérisée par le fait que la paix de Dieu, la paix de Dieu doit être visible dans ma conduite quand je le vis. Pour démontrer la paix avec Dieu. Et pourtant, ce n'est pas ma situation ce matin. Que dois-je faire selon la parole de Dieu? Le temps passe, juste quelques principes que la parole de Dieu nous donne. J'ai parlé de ce mécanisme des forteresses dans lequel on s'abrite nos pensées. La parole de Dieu, la première des choses, chaque fois la tentation du péché arrive, c'est de dire non au péché. Et Paul disait, il dit, renverser les forteresses de ses raisonnements en l'amenant captive à l'obéissance de Christ. Première chose à faire. Deuxième chose à faire, on vient de le dire, chaque fois que la tentation du péché est là, non, je veux admettre et devant Dieu, j'ai péché contre toi. Accepte le même diagnostic que tu me dis dans ta parole et je confesse. Ce n'est pas suffisant, mais j'abandonne. Et tu m'assures, je sais, le pardon et la paix. Troisième chose que quelqu'un, un serviteur de Dieu, disait, et c'est vrai, il faut sans cesse revenir à la paix avec Dieu et nous le rappeler chaque jour pour que cette paix avec Dieu dans la foi que nous avons mis dans la confiance, dans le sang de Christ, nous rappelle la grandeur du pardon. Oui, le péché est immense, mais le pardon est encore immense. Et accordé une fois pour toutes en Jésus-Christ. Ça veut dire, en d'autres termes, se prêcher l'évangile à soi-même chaque jour, chaque jour, chaque jour. C'est pour cela que nous chantons, et j'aime beaucoup ce cantique, « Redites-moi l'histoire !» Je prêche à moi. « Redites-moi l'histoire de Jésus !» Oui, important, parce que vous savez, notre salut alimente notre foi. Et la paix de notre conscience rend notre cœur paisible. Et j'ai besoin de prêcher l'évangile chaque jour, à moi-même, pas seulement aux autres. Donc, principe que je vois dans la parole de Dieu, psaume 119:65, il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur. Oh, c'est beau ça. Psaume 119:65, il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur. Oui, ce passage enseigne que se réjouir dans la parole de Dieu procure la paix. Surtout que je vis dans un monde agité et hostile à Dieu et rempli de péché. Donc se réjouir de la parole de Dieu procure la paix dans un monde agité et nous met à l'abri contre le pouvoir de la tentation. Mais quelque chose, il faut se poser la question, mais qu'est-ce que ça veut dire, il ne leur arrive aucun malheur? Comment comprendre cela? Est-ce que ça veut dire que le chrétien, quand il a mis sa confiance en Jésus, il a fait la paix avec Dieu, il est épargné de toutes épreuves, de toute souffrance? Mais non,
La Bible n'enseigne jamais cela dans toute sa totalité. Sur ce sujet, non. Mais alors, comment faut-il comprendre? Oui, l'auteur veut dire tout simplement que, en faisant de la parole nos délices, par notre obéissance à la parole de Dieu, cela va nous protéger de faire les bêtises. Vous comprenez? C'est comme de la prévention. La parole de Dieu, quand je l'étudie, je la médite, et je frictionne dans mon cœur, il va me préserver de faire des bêtises qui, par conséquent, arrivaient à mon malheur. Le salaire du péché, c'est la mort. Ah, je comprends mieux. C'est ça dont il veut dire. Et pour terminer, comment puis-je vivre dans mon quotidien cette paix? Philippiens 4, 7 que j'ai donné au début. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Oui, nous avons dit que cette paix n'est pas épargnée à cause de l'absence d'épreuves. Mais cette paix vient du contrôle total de mes pensées. Écoutez bien, vient du contrôle total de mes pensées. Sous l'action de la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Donc il faut mémoriser la parole de Dieu. Et vous savez, Jésus lui-même a fait cela quand il était tenté par le diable, Matthieu chapitre 4. Il connaissait la parole de Dieu, il le sortait. Et le diable fura loin de lui, dit-nous la parole de Dieu. Oui, vous voulez la paix de Dieu? Mémorisez la parole de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, à travers cette parole, va toucher notre cœur pour que nous rendre beaucoup plus obéissants à lui. Pour terminer, passons au dernier point. Quand l'homme a été rétabli, je dirais d'une manière verticale, avec la paix avec Dieu, il a la paix de Dieu. Et quand il a la paix de Dieu, ça va se réjaillir, je dirais horizontalement, tout autour de lui, par ses relations avec ses semblables. C'est ce que la Bible parle donc ici de la paix avec les autres. Juste un verset, Romains 12, 18. Romains 12, 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Beaucoup de choses à dire sur ce verset, mais le temps passe. Juste une chose, c'est que il y a un principe général ici, à savoir que la paix est la norme des relations sociales. La paix qui vient de Dieu est la norme de la relation sociale. Le temps passe, comme je l'ai dit, je ne veux pas rentrer en détail là-dessus, mais terminé. Oui, je comprends mieux, et j'espère pour vous ce matin, j'ai besoin grandement de cette paix de Dieu. Oui, on dépense tant d'argent. Allez ici et ailleurs pour apaiser cette soif de paix intérieure. Vous m'écoutez? Si c'est votre cas, vous voulez cela? Il faut d'abord que vous fassiez la paix avec Dieu, cette paix objective. Et cette paix est acquise une fois pour toutes et définitive. Ça s'obtient par le sang de son Fils sur la croix, comme nous avons dit. Une fois la paix avec Dieu est rétablie, vous avez la paix de Dieu, cette paix intérieure, qui ne dépend pas des circonstances, et qui même se démontre dans les circonstances les plus difficiles. Et la parole de Dieu fait de vous des témoins de sa paix en vivant autour de vous en paix les uns avec les autres. La Bible parle que Dieu a fait de nous des porteurs de la réconciliation. Oui, que ce soit le cas pour chacun de nous. Que Dieu bénisse à travers sa parole et nous faire
comprendre ce besoin. Je comprends mieux maintenant quand parole dit que la grâce et la paix